Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Breda. Olivier, bonjour.
Salut Benoît.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas ?
Alors, je m'appelle Olivier Breda, j'ai 34 ans, je suis papa de petit garçon, je suis marié. Côté professionnel, j'ai fait beaucoup de SN dans ma carrière, beaucoup, pas en quantité, mais plutôt en temps passé en ESN. Je suis resté un peu plus de 10 ans chez Sphere à Strasbourg et j'ai rejoint il y a quelques mois, CoachUp, qui est une start-up qui propose une plateforme de coaching en ligne pour rendre le coaching accessible à toutes et à tous, à tous les niveaux hiérarchiques au sein des entreprises.
Ce que je trouve super, là, on va avoir plein de sujets de discussion aujourd'hui. Déjà, commençons par le métier de la boîte dans laquelle tu bosses sur le coaching. Alors moi, je ne sais pas si tu le sais, moi j'ai une formation de coach professionnel, donc ça me parle bien. Et ce qui me fascine toujours, c'est l'écart qu'il y a entre le coût que ça a, parce que ça coûte un peu de temps et ça va coûter quelques dizaines à quelques centaines d'euros selon les circonstances dans lesquelles tu fais le coaching, soit pro, soit plus perso. Mais ça a un impact que je trouve tellement énorme dans la vie que ce soit moi, dans ce que j'ai vécu ou dans ce que j'ai pu voir avec certaines des personnes que j'ai accompagnées, que je suis toujours fasciné. Et quand je creuse, mais pourquoi en gros tout le monde ne fait pas du coaching? Parce que ça serait un truc, je pense, qui serait extrêmement aidant dans les entreprises. J'en suis arrivé à la conclusion, c'est que tout simplement, les gens ne connaissent pas. Parce que moi, mon rationnel économique, il est simple, c'est que je pense que si tu prends, le gain de productivité que tu peux avoir, le gain de bien-être que tu peux avoir dans ta vie, pour moi, est largement, compense largement le coût que ça peut avoir, mais d'une échelle de 10 ou 100, tu vois. Donc, je me dis, il devrait y avoir plus de coachs, tout le monde, de la même manière que maintenant, c'est à peu près rentré dans les mœurs que on accepte plutôt bien que quelqu'un ait un thérapeute, par exemple, bah, que tu es ton coach, en fait, pro. Mais non, je pense qu'on en est loin. Et ouais, mais c'est ma théorie, c'est que c'est dû tout simplement à la méconnaissance, en fait, de ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en penses de ma théorie ?
Je pense que c'est une théorie intéressante. Je pense que quand on n'accorde pas trop de valeur à quelque chose, c'est souvent qu'on ne connaît pas la chose en question. Je pense que ça s'applique à énormément de choses. Le coaching, ça en fait partie. Et il y a peut-être aussi une impression que ça devient une espèce d'effet de mode où ça y est, tout le monde est coach, tout le monde s'improvise coach et tout le monde coach sur tout et n'importe quoi. Mais un coach formé, certifié, qui a vraiment toutes les compétences nécessaires pour faire avancer quelqu'un, comme tu le dis, je pense que ça peut faire exploser les compétences d'une personne. Le coach, en fait, ça va être quelqu'un qui a cette prise de recul et qui va pouvoir questionner des choses qui te semblent tellement évidentes que tu ne les vois même plus, en fait. C'est un petit peu quelqu'un, c'est un peu comme un agent immobilier qui débarque chez toi parce que tu veux vendre ton chez-toi, puis tu dis, tu vois, là, tout ça, ça ne va pas. Toi, tu ne le vois plus. Mais lui, il te dit, tout ça, ça ne va pas. C'est souvent des petites choses, mais ces petites choses réglées font que ton bien devient beaucoup plus attrayant. Et c'est des fois pas un effort de dingue. Mais je pense que ton coach, c'est pareil. Il n'est pas là pour te dire, t'es mauvais. Il est là pour te dire, ta manière de faire là, est-ce que tu l'as questionné un jour ? Est-ce que tu as essayé de la remettre un petit peu en cause ? Et est-ce que tu ne voudrais pas essayer autre chose ? Si tu sens que ça te pose problème. Parce que souvent, en fait, le coach ne te pointe même pas les choses. C'est en te posant des questions, en te guidant en quelque sorte dans une réflexion, va t'amener à te dire, tiens, c'est vrai que ça, en fait, ça m'emmerde dans mon quotidien, ça m'emmerde au boulot.
Ouais, parce qu'en fait, le coaching pro tel que je le connais moi, il n'est pas fournisseur de solutions. Hein. Il est expert d'un processus qui est un processus de type maïotique et qui est là pour te faire accoucher de tes questionnements, de tes problèmes et surtout de tes propres solutions. Alors après, on a toute une grille de... Enfin, moi, j'ai appris des outils pour faire ça. C'est en ça que je dis qu'on devient expert d'un processus. Mais je ne sais jamais à l'avance ce qui va convenir à un de mes coachés.
C'est ça.
Parce qu'en fait, on va faire émerger sa propre solution. C'est tout l'intérêt d'un coaching individuel versus une formation, un e-learning, où tu vas apprendre quelque chose de très descendant. Alors moi, comme je me spécialise sur les développeurs, je suis capable d'alterner entre le coach pro, qui est une posture très maïoticienne, et ce que j'appelle le coach sportif, quelqu'un qui va être plus directif et qui va dire « bon, là ça va pas, il faut faire ci, ça, ça et ça ». Mais quand je le fais, je suis d'abord conscient du changement de posture, et puis surtout, je l'annonce. Donc, en tout cas, je le dis pour les auditeurs, le coach pro, il est pas là pour vous dire quoi faire. Il est là pour vous aider à trouver vos solutions, en fait, vis-à-vis de vos problèmes.
Et même t'aider à trouver tes problèmes.
Et déjà, t'aider à trouver tes problèmes. Parce qu'en fait, souvent, tu démarres d'un truc, d'une situation qui est un peu bancale, mais bon, finalement, les trucs qui vont pas, tu t'y es habitué, tu as appris à faire avec. Et tu te rends pas compte qu'il y a un sujet en fait. Et en fait, d'en parler, de l'expliciter, et là, d'un coup, petit à petit, c'est tout le travail du coach de faire émerger le fait qu'il y ait un sujet à cet endroit-là.
Exactement, exactement. Et des fois, c'est des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé.
Et toi, alors, tu me disais dans la préparation que, du coup, ton employeur permet d'accéder gratuitement au service, c'est ça? Enfin, vous pouvez tous bénéficier de votre propre service, ce que je trouve génial.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça fait combien de temps que toi-même tu en profites et ça t'a apporté quoi?
Alors, j'ai pu commencer mon coaching, je sais plus si c'est début avril ou non, je dirais plutôt c'est début mai, 6 semaines après avoir démarré chez Coachum. Et ce que ça m'a apporté de manière très concrète, ça m'a fait me rendre compte que j'avais tendance à beaucoup papillonner en réunion. Pas que j'écoute pas, c'est juste que des fois, bah, il se passe des choses en réunion, tu ne te sens pas hyper concerné sur le moment, tu te dis bon, je vais faire une bricole, je vais répondre à un Slack, un mail vite fait, et puis tu reviens dans la réunion, tu te refocalises, et putain merde, j'ai raté des trucs. Et tu as du mal à accrocher, et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne tirais pas complètement partie des réunions auxquelles je participais. Il fallait des fois que je reprenne le temps de discuter avec des gens, de voir des choses. Et ça avait aussi un côté frustrant. Ça, j'ai pu l'identifier grâce à mon coach, en discutant tout simplement. Et bah, j'ai proposé des solutions pour toujours garder ça à l'esprit. J'avais un petit bonhomme devant moi qui était un peu la représentation du tu te focalises. Et à partir du moment où j'avais perdu le focus, bah, le petit bonhomme, je faisais partir et puis je. Ça me rappelait que bah voilà, sur ce coup-là, j'avais pas réussi à être focus jusqu'au bout, mais ça avait le côté motivant, j'avais un peu gamifié le fait de rester focalisé et d'être dans l'instinct, dans ces échanges synchrones qui bah, sont chronophages, énergivores et souvent trop nombreux. Donc si en plus ils sont pas efficaces, c'est d'autant plus frustrant, quoi.
Ah, c'est clair. Écoute, c'était cool d'échanger déjà sur ça. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'en parler? Parce que moi, je sais que j'ai mis trop de temps à profiter de la relation d'aide. J'avais un peu un blocage à ce niveau-là. Et j'aurais gagné tellement de temps si j'avais accepté de l'aide plus tôt, si j'étais allé en chercher plus tôt. Donc c'est un message que j'ai envie de porter. Et ce que je trouve cool dans votre produit, c'est que du coup tu amènes un portail où tu as le choix en fait. Si j'ai bien compris, tu peux choisir ton coach. Il y a une sélection que vous faites visiblement de coach. Ce qui règle un problème qui est assez compliqué à régler, c'est que quand bien même là un auditeur se dirait, bah tiens, pourquoi pas, je me laisserais bien tenter, aller regarder, au moins regarder de quoi il en retourne. Ben, en fait, il serait bien embêté parce que comment tu cherches un coach? En fait, tu vois, c'est pas si évident, quoi. Il n'y a pas encore le malt ou le malt du coach. Et ben, si, en fait, avec des plateformes comme les vôtres, alors je crois que vous n'êtes pas les seuls à faire ça, mais avec ce genre de plateforme, ça simplifie l'accès à ce genre de prestations, quoi. Je trouve ça cool.
C'est ça, mais le côté de rechercher le coach est assez simplifié dans le sens où sur Coachhub, il y a un panel immense de coachs, hein, il y en a quelques milliers, et en fait, tu vas déjà donner quelques critères qui sont importants pour toi dans le choix de ton coach, et il y a également tout un questionnaire pour essayer de cerner ta personnalité, tes besoins, les choses qui comptent pour toi, et à l'issue de ça, il y a une proposition de 3 coachs qui est faite avec tout un processus d'intelligence artificielle derrière pour choisir les meilleures personnes. Et tu peux demander à avoir 3 autres propositions si elles ne te conviennent pas. Et puis bah, tu choisis par rapport à ça. Il y a des vidéos de présentation, un profil écrit, tout ça. C'est histoire de limiter les erreurs de casting. Bah, moi, je suis super content de mon choix.
Dans les thématiques que tu m'avais proposé qu'on aborde aujourd'hui, il y en a une qui est quelque chose qui est important pour moi, qui est la sécurité psychologique. Qu'est-ce que tu voulais évoquer par rapport à ça?
En fait, je me suis rendu compte que, au fil du temps, dans le monde du travail, on a tendance à vouloir s'afficher comme étant en quelque sorte invulnérable. C'est-à-dire que on a beaucoup eu une injonction de ce qui se passe à la maison, ça se passe à la maison. Ce qui se passe au travail, ça se passe au travail. Et il y a un truc super étanche entre les deux. Donc ça, c'est déjà le premier aspect qui dit je veux complètement omettre cette partie-là de toi. Si tu as des merdes à la maison, je considère que ça ne doit pas t'impacter au travail. Alors que dans la vraie vie, ce n'est pas ce qui se passe. Et c'est déjà une première manière de se mettre en vulnérabilité, que d'admettre que bah, quand ça ne va pas à la maison, ça peut ne pas aller au travail du coup. Et il y a aussi l'aspect de se dire, bah, quand je suis au travail, je suis pas obligé de tout savoir. J'ai le droit de me tromper, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'être inquiet, j'ai le droit d'être en colère. Bah, le domaine de la sécurité psychologique, en fait, c'est permettre à toutes ces choses-là de s'exprimer pour mieux se comprendre les uns les autres et essayer d'être le plus à l'aise possible et de se dire, j'ai envie de dire ça à cette personne. Je prends tout ça en compte et je le fais parce que c'est important. Mais je le fais en étant respectueux de la sécurité psychologique de cette personne. Je ne vais pas l'agresser. Je vais essayer d'être très pragmatique et toujours dans quelque chose de constructif. Et en fait, en amenant un cadre comme celui-là, un cadre, donc, comme tu dis, qu'on appelle de sécurité psychologique, on arrive à se dire plus facilement les choses. Et on évite d'empiler ce que Marilyn Cole appelle de la dette émotionnelle. Des gens, ils se sont dit des choses qui leur ont pas plu, ou c'était pas le bon moment, c'était pas bien dit. Il y a des choses qui sont restées, qu'on a un peu planquées sous le tapis, parce que voilà. Et au bout d'un moment, on a une équipe qui n'arrive plus à se parler, parce que les gens ont peur de se dire des choses, ils ont peur d'exprimer des choses, même pas de dire quelque chose à quelqu'un, mais juste dire, bah là, je sais pas, je suis inquiet, je suis perdu, je comprends pas ce qu'on fait. Je trouve qu'on a encore beaucoup d'endroits où c'est une réalité. Et j'ai eu la chance de me retrouver dans des équipes où on avait largement réussi à dépasser ça. Et j'ai pu constater à quel point c'était bénéfique et à quel point on arrivait à résoudre les problèmes à la racine par un côté, je suis prêt à me mettre en vulnérabilité, je suis prêt à dire, je ne sais pas, tout simplement.
Moi, j'ai connu des entreprises en tant que coach, mais là plus coach agile, où j'avais fait des constats qui me glaçaient le sang. C'est-à-dire que à l'échelle d'une entreprise entière, on parle de, je sais pas, d'une cinquantaine de personnes dans une équipe tech, les gens passaient beaucoup de temps à se parler, mais ne se disaient pas les choses importantes en fait. Donc c'était finalement beaucoup de bruit, mais il y avait une espèce de chape de plomb sur les choses qui étaient vraiment importantes et émotionnelles. Et du coup, quand c'est ces cas-là, bah, ça finit de toute façon par craquer d'une manière ou d'une autre. Et ça craque toujours mal, en fait. C'est-à-dire dans quelque chose qui est viré dans le pathos, ou dans quelque chose. Alors, c'est pas que ce soit mal de virer dans le pathos, mais c'est que ça devient quelque chose de. Qui du coup n'est plus juste, je trouve en tout cas, qui a pas sa place dans l'entreprise. Quand je dis pas sa place, c'est pas au sens de. Les émotions n'y ont pas leur place. C'est qu'on pourrait tellement faire mieux, en fait. On pourrait tellement faire mieux que de se disputer comme des enfants de cour d'école, en fait. Ah oui, mais lui, il a dit ça, mais lui, il a dit ça. Et j'ai vu des gens craquer et pleurer de cette dette émotionnelle dont tu parles, quoi. Alors que pourtant, maintenant, on le sait, enfin, on le sait, alors je sais pas à quel point les études sont solides, mais Google a fait une étude là-dessus. Le facteur numéro un de performance des équipes, c'est pas le diplôme, c'est pas le talent, c'est pas la compétence, c'est la sécurité psychologique. C'est quand même pas rien, quoi, je veux dire.
Non, mais on est bien d'accord. Hein. Et si tu veux, j'ai postulé chez CoachHub parce que dans la fiche de poste, bon, déjà, c'était hands-off. Je suis pas un expert technique. Ça fait un moment que j'ai arrêté de développer et ça me va bien comme ça. Je préfère mettre les gens qui sont passionnés par ça dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir le faire. Mais dans la fiche de poste, la notion de sécurité psychologique, c'était quelque chose qui était très haut. C'était, je me demande si
Et
c'est pas
comment tu
le.
le voyais alors? Parce que c'était clairement indiqué ou tu le voyais
C'était
indirectement
indiqué,
par.
c'était nommément inscrit. Pour voir la sécurité psychologique, mettre en place un environnement de sécurité psychologique au sein de son équipe.
Ah, c'est-à-dire, ça faisait partie de ta fiche de poste en fait.
Ah, c'est dans ma fiche de poste, oui, tout
C'est
à
dans
fait.
ta fiche de poste. Et concrètement, comment tu t'y prends? C'est quoi les actions que tu mènes pour mettre en place cette sécurité psychologique en tant que manager?
Une des premières choses que je fais, c'est me mettre moi-même, des fois de manière un peu excessive, en situation de vulnérabilité. C'est-à-dire que très vite, je montre aux gens. Vous avez vu, des fois je suis ridicule, des fois je sais pas. Et
Et c'est pas grave.
bah c'est ça, et c'est pas grave, et ça arrive, et ça vous
T'as
arrivera
un
aussi.
exemple de ça, peut-être d'un moment où t'as presque un peu joué le truc?
Un moment où j'ai un peu joué le truc. Arrête, je sais déjà qu'il y a Linda qui est fan de ton podcast qui va écouter. Si elle commence à voir toutes les ficelles, ça va pas aller. Non, plus sérieusement.
Mais sans jouer, la dernière fois où tu as pu mettre, où tu t'es dit, tiens, là, c'est une manière aussi de montrer que voilà, que tu as le droit de pas savoir et que c'est pas grave ou que tu es dans une situation.
J'ai du mal à te répondre d'un point spécifique parce que pour moi, c'est devenu quelque chose de très naturel, en fait, de dire, bah, je sais pas,
Après,
je vais
tu fais plus
demander.
gaffe, en fait.
C'est, ouais,
T'es
c'est
dans ton
ça.
savoir-être, quoi.
C'est devenu un non-sujet, en fait, pour moi. On me demande un truc, je sais pas, je vais demander. Si je sais pas à qui demander, bah, je vais demander à quelqu'un qui saura à qui demander. Mais enfin, à un moment, voilà, c'est un fait. Je suis pas là pour avoir une espèce d'image ou quoi. Je suis là pour être ce que je suis. Et bah, quand je sais pas ou quand j'ai merdé. Et je pense que, en fait, bah, là où effectivement j'ai pu en jouer beaucoup au début, c'est que j'arrivais dans un environnement qui m'était très inconnu. J'avais jamais fait de produit. J'avais toujours travaillé, soit fait de la TMA, soit j'avais été coach agile dans une équipe d'innovation dans de la biopharma. Et si tu veux, quand tu arrives sur un produit, c'était tout nouveau pour moi. Coaching, je connaissais par le fait d'avoir fait un peu de coaching agile, mais le coaching professionnel, c'était un monde assez inconnu. Donc au début, bah, je savais rien. Et je le disais, franchement, je sais pas. Je connais pas, je découvre, je suis perdu. Je pense que j'ai beaucoup dit au début de mon poste chez CoachUp, je suis perdu. Et j'ai beaucoup dit aussi, en fait, quand je suis arrivé, j'avais pas ma propre équipe, elle était mergée avec une autre, parce qu'il n'y avait pas vraiment de backlog pour alimenter cette équipe-là. Et du coup, j'ai beaucoup dit, oh mais non, mais moi, les gars, je suis bien, je n'ai pas de backlog, je me contente d'être un peu shadow avec l'engineering manager en cours, et ça me va bien, je n'ai pas de pression. Et le fait de dire ça, tu vois, de leur dire, je suis content et serein parce que bah, j'ai pas de pression. Peut-être ils se sont dit, ah ouais, le mec, il ose dire ça, quoi. Ça lui va. Je dis, bah oui, ça me va. Et quand il faudra commencer un peu à prendre des responsabilités, bah, on va y aller tous ensemble, quoi. Et pour aider ça aussi, j'ai tendance à beaucoup dire aux gens, voilà les attentes et voilà ce qui se passe si on n'y va pas. Et la plupart du temps, ce qui se passe si on n'y va pas, bah, c'est que c'est pas grave. C'est que bah, la situation fait qu'il y a de l'incertitude et que si on n'atteint pas les objectifs qu'on s'est fixés, bah, c'est pas grave. C'est dommage. Il faut qu'on essaie de voir pourquoi on n'y est pas allé et qu'on fasse mieux la prochaine fois. Et voilà. Je suis désolé, j'ai pas d'exemple bien précis, de truc un peu marquant.
Non, non, mais écoute, tu réponds assez bien à la question qui était comment tu t'y prends pour créer cet espace de sécurité psychologique. Moi, j'ai deux éléments là que tu me donnes. C'est le premier par l'exemplarité, c'est-à-dire incarner toi-même, t'accepter de se mettre en position de vulnérabilité pour montrer que c'est pas grave. Et puis dans ton discours, dans ta manière de manager tes équipes, c'est de bien être clair sur les objectifs et sûrement que tu essaies d'y donner du sens pourquoi on y va. Et ensuite d'expliquer que si on n'y arrive pas, ok, il va se passer ça, ça et ça. Et au final, personne ne va mourir, quoi.
C'est ça. Et alors, maintenant qu'on y pense, là, tu vois, tu l'as reformulé et ça me fait penser à quelque chose. En fait, je crois que j'ai montré que c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur, cette transparence, parce que la sécurité psychologique aussi, c'est un sujet sur la transparence, quoi. C'est la transparence, ça englobe encore tout ça. Mais si tu veux, lors de mon deuxième entretien chez CoachUp, le premier c'était RH, et le deuxième, j'ai rencontré un des directeurs engineering. Très très vite, je lui ai dit, par contre, dans quelques semaines, quelques mois, je vais être papa. Pour une deuxième fois. Ça veut dire que pendant 4 semaines, je suis plus là. Je vais prendre mon congé paternité, c'est important pour moi. Et vu que ça va tomber un tout petit peu avant les vacances d'été, bah, je vais aussi prendre deux semaines de congé en été. Est-ce que ça te convient? Il s'est un peu arrêté, puis il m'a dit, tu l'as dit à tous les gens avec qui tu as été en entretien, ça? Je dis, ouais. Je dis, mais t'as pas peur que ça te desserve? Et je lui ai dit, bah, si tu considères que faire passer ma famille avant mon travail, ça te convient pas, je ne suis pas sûr d'avoir envie de bosser avec toi, en fait. La famille, c'est mon ciment, c'est mon socle. Ma vie personnelle, c'est mon socle. C'est ce qui fait que. Enfin, le travail alimente la vie personnelle. Alors après, j'en tire des choses de mon travail. Je prends beaucoup de plaisir, je grandis beaucoup et j'ai énormément d'excellentes relations et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Mais à la base, si ma famille, ça ne va pas, ce n'est pas mon travail qui va le sauver, en fait. Donc, la priorité, c'est celle-là. Et si ça ne vous convient pas, bah, je ne suis pas sûr qu'on a envie de bosser ensemble. Et il m'a dit OK. Puis il était super content de cette transparence-là. Et ça a permis de vraiment mettre le truc un peu au clair ensemble, quoi. Voilà, ça c'est important pour moi. Si on ne partage pas ces valeurs-là, on peut passer à autre chose. Et je pense que la sécurité psychologique, c'est ça, c'est oser. Là, enfin, là, j'étais clairement en vulnérabilité. Il aurait très bien pu me dire, écoute, mon gars, si dans 3 mois, tu n'es plus là pendant 6 semaines, ça va nous emmerder, ça ne va pas aller. Et puis moi, le mec qui veut. Qui impose un peu ces conditions comme ça me plaît pas, on bosse pas ensemble. Il aurait pu. Il l'a pas fait.
Ouais, en fait, tu l'as amené. Là, on est de plein pied dans l'assertivité, c'est-à-dire comment est-ce que tu dis les choses et que tu poses tes limites à toi et ce qui est important pour toi dans le respect de l'autre. T'es
Exactement.
pas venu dans la manière que tu as de le traduire, j'ai pas entendu qu'à un moment donné, tu es venu poser tes conditions. Tu es juste venu dire voilà ce qui est important pour moi. Et en fait, effectivement, par contre, tu l'as présenté comme un non négociable, très probablement, ce qui a dû interpeller ton interlocuteur.
Oui, tout à
Mais
fait. Après, ça ne l'était pas.
en fait, si on est au clair avec ces non négociables, et c'est pas pour rien que ça s'appelle des non négociables, si on est au clair avec, d'où l'importance de faire un travail perso, ça passe bien, en fait, comme tu le dis.
Je trouve que c'est une forme de respect qui est très grande.
Bien sûr. Bah, déjà de se respecter soi-même. Et ensuite, toute la difficulté, c'est de savoir le montrer, le poser de manière respectueuse pour l'autre.
Et je pense que j'ai réussi à montrer la motivation que j'avais, tout l'intérêt que j'avais pour le poste et pour l'entreprise.
Sinon, tu serais pas là.
Voilà. Mais même encore avant ça, parce que si tu veux, si j'avais commencé par poser ça sur la table, le mec, c'est bon, alors on s'est pas dit bonjour, il est déjà en train de me dire qu'il veut se barrer.
Oui.
Je pense que j'avais réussi à convaincre de ma motivation.
Bien sûr, ça passe évidemment mieux de dire ça une fois que la personne a déjà envie de travailler avec toi. C'est comme des fois, j'ai le souvenir de gens que je recevais où dans les 2 premières minutes, il y avait des questions qui paraissaient assez incongrues, en fait. C'était en mode, non mais attends, c'est pas le moment de poser cette question, en fait. Tu vois, tu viens d'arriver, ne commence pas à me demander le salaire ou me demander, ah oui, le rythme de travail, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on bosse aux 35 heures? Le mec, il est arrivé depuis 5 minutes, il te pose une question sur les 30 heures. Moi, si dans les entretiens, je propose à la personne très rapidement de parler, en fait, de poser une question, genre dans les 3 premières minutes. Hein. Tu vois, je suis pas en mode je te bassine pendant un quart d'heure sur mon projet. Je te donne déjà la parole très vite, comme ça, si jamais ça doit durer un quart d'heure, je préfère le savoir tôt. Et du coup, le gars, première question qui vient de lui, hein, c'est quoi le rythme de travail? Est-ce qu'on est aux 35 heures? Ça teinte un peu la conversation. Je veux pas mettre de sectarisme ou faire de stéréotypes, mais ça teinte un peu la discussion et tu dis, ah, mais j'ai affaire à qui, en fait? J'ai affaire à quelqu'un qui est motivé, qui a envie d'y aller, ou quelqu'un qui va être dans une logique de regarder la montre et à 18h01 de plus être là. Est-ce que, tu vois, ça pose plein de questions. Et pourtant, tu vois, pendant des années, j'ai été le premier à dire aux membres de l'équipe, prenez vos 35, enfin, faites vos 35 heures. Mais je vous demande pas d'en faire plus, quoi. Faites vos 35 heures. Par contre, faites-les à fond. Et surtout, reposez-vous. Donc, je suis pas du tout quelqu'un qui incite à faire des heures pas possibles. Au contraire. Mais par contre, je trouve que l'amener en premier, c'est mal placé, en fait. C'est déplacé, voilà.
C'est donner l'impression que c'est la première de tes priorités, en fait. Même
Mais c'est
si
ça, en
c'est
fait.
un
Parce que
truc
les premières
important.
questions qui vont émerger, ça va être tes premières préoccupations. Si ta première préoccupation, c'est ton rythme de travail.
Ça peut être important. C'est un truc très perso, mais le matin, je dépose mon plus petit à la crèche et le soir, je récupère le plus grand à l'école et le plus petit à la crèche aussi. Et en gros, bah, je ne peux pas étendre ces balises-là. C'est pas possible. Donc j'ai cette contrainte temporelle qui est très forte, et même si elle est importante, je pense que avant cet aspect-là, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que dans mon poste, est-ce que la mission de l'entreprise me correspond ou pas, en fait? Ce que je vais faire dans la
Mais
boîte, est-ce que ça
évidemment.
me va? Parce que si c'est juste une histoire de faire ces créneaux horaires-là et que le reste, ça m'intéresse moins, si tu veux, c'est pas très motivant pour un employeur. Alors que quelqu'un qui arrive et qui te dit, ouais, ce que vous faites, ça me plaît, ouais, le poste, il me plaît, regardez, j'ai toutes ces compétences-là, vous allez voir, on va s'éclater ensemble. Si déjà tu donnes envie et que après, bah, t'expliques que tu as certaines contraintes et que bah, tu vas pas pouvoir étendre tes horaires comme pas possible, si tu as réussi à convaincre en face, il y a une meilleure compréhension. Si tu arrives tout de suite avec ta contrainte, le mec, il a même pas envie d'écouter ce que tu as à mettre en face, en fait.
On est d'accord. Ok, ça c'était la thématique de la sécurité psychologique. Est-ce que tu as autre chose que tu avais envie de dire sur ce sujet-là?
Sur ce sujet-là, j'ai envie de recommander aux auditeurs et auditrices de suivre Amy Edmondson, qui est professeure à Harvard, qui aborde énormément le sujet, qui a des vidéos, des écrits vraiment très très intéressants dessus, très accessibles, et qui permettent de prendre un petit peu de recul sur toutes ces choses et de se rendre compte à quel point ça peut avoir un impact significatif au sein d'une équipe.
De quoi tu as envie de parler maintenant?
De quoi j'ai envie de parler? Il y a un autre sujet qui est assez intéressant que j'aime bien aborder souvent avec des étudiants, des développeurs juniors, parce que bah, je l'ai beaucoup fait et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir là-dessus, c'est l'évolution de carrière d'un développeur. Là, bon, je vais un peu rabattre les oreilles avec un truc qu'on entend de plus en plus en ce moment, et c'est bien. Mais un développeur, son but dans la vie, c'est pas de devenir chef de projet ni de devenir manager. C'est quelque chose qu'il faut qu'on martèle aux plus jeunes et aux moins jeunes, que ce qui va compter dans votre carrière, c'est que vous fassiez quelque chose qui vous plaît, parce que ça, vous allez le faire beaucoup, beaucoup d'heures chaque semaine, 35, voire plus. Donc, il faut que vous y preniez du plaisir. Et si vous êtes devenu chef de projet parce que vous vous êtes dit, bah, c'est la suite logique et c'est ce qui me permet d'avoir des responsabilités et tout ça, potentiellement, vous allez vous faire chier si vous aimez la tech. Parce que chef de projet, souvent, ça touche plus grand-chose au code et ça fait d'autres choses qui n'ont rien à voir. Et si ce que vous faites, ça vous fait chier, bah, en tant que manager, vous allez casser un peu les équipes et potentiellement même casser un peu les gens aussi. C'est des métiers, tout comme les métiers du développement, qui sont des métiers d'excellence, qui nécessitent de grandir, qui nécessitent de se former, qui nécessitent de s'investir. Si vous faites ça juste pour la thune et les responsabilités, ça ne marchera pas. J'ai envie de dire à tous les devs qui aiment la tech, qui aiment développer, qui aiment concevoir des architectures, concevoir des solutions, vous ne sentez pas obligé de prendre des responsabilités managériales ou des responsabilités de gestion de projet pour grandir. Il y a de plus en plus de boîtes aujourd'hui qui vous offrent des opportunités d'avoir de l'impact, et c'est vraiment ça qu'il faut que vous gardiez en tête, qui vous offrent des opportunités d'avoir de l'impact dans une entreprise pour pouvoir évoluer dans votre carrière.
Bah écoute, je suis ravi de l'entendre parce que c'est aussi le message que j'essaye de porter. Et même, j'ai envie de te dire, de s'autoriser à changer ça, quoi. Alors déjà, je suis content parce que j'ai l'impression que le marché du travail, effectivement, offre maintenant plus de potentiel et valorise mieux les carrières techniques. Et ça, je m'en réjouis. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça peut changer au cours du temps, en fait. Moi, j'ai eu des phases de vie où j'étais devenu manager. Et ça m'allait très bien, je venais remplir certains besoins, certaines ambitions. Voilà, j'ai vécu ces choses-là. Pour me rendre compte qu'en fait, ça me plaisait peut-être pas tant que ça, et pour faire autre chose, pour revenir dans la tech, pour me rendre compte que j'avais bien envie de construire une équipe, et donc reprendre une casquette de manager, pour me rendre compte qu'au finalement, c'était cool, c'était une belle expérience, mais que maintenant, ce dont j'avais besoin dans ma vie, c'est d'être tout seul à bord et de pas avoir de contraintes autres, et je suis redevenu freelance. Ben voilà, ça peut. Le message que j'ai envie d'adresser, c'est que non seulement c'est pas une fatalité de devenir chef de projet, mais en plus ça peut changer au cours du temps, quoi. Parce que moi, j'ai pas mal de témoignages de gens qui sont justement sortis de la tech pour aller vers des postes de management, d'encadrement, d'animation, et qui se sentent un peu coincés. Parce qu'effectivement, la paye étant parfois meilleure, souvent meilleure. Quoique c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, mais en tout cas, ça a été longtemps le cas. La paye pouvant être meilleure, c'est compliqué. De toute façon, quand on a un certain niveau de vie, enfin, tu es un bon dev, tu touches 50, 60K brut, tu passes à 80 parce que à un moment donné, tu as pris ta carrière de manager. Refaire le chemin inverse 80, 60, c'est compliqué. Parce qu'on s'habitue très vite à l'augmentation de niveau de vie. Je trouve que c'est beaucoup plus dur, la réduction est beaucoup plus dure que l'augmentation sur ces sujets-là.
Quelle
Et
surprise.
du coup, la personne se sent un peu coincée, quoi, en fait.
Ben, j'ai envie de dire, tu donnes des chiffres. C'est des chiffres aujourd'hui, des 80K pour des devs. C'est plus surprenant aujourd'hui, même en France, pour des devs vraiment bien
Ouais, même
expérimentés.
plus, hein.
Et même plus, et même plus. Le côté les managers gagnent plus que les devs, c'est pas forcément vrai. Chez CoachHub, il y a des devs qui gagnent plus que moi. Et je considère que je suis déjà très bien payé. Et ça nous va bien, en fait, parce que c'est des gens brillants, c'est des gens précieux, c'est des gens qui apportent énormément de valeur. Il faut tout simplement savoir les rétribuer comme il faut. Et j'ai aussi envie de dire, il faut savoir en prendre soin, après, comme tous les autres développeurs. Et moi, c'est vraiment ce truc-là qui m'anime, en fait. J'ai toujours ça trouvé particulièrement dommage de se dire, t'as un dev qui adore, qui est un excellent dev, on se dit, tiens, on va lui proposer une promotion, on va en faire un manager ou un chef de projet. C'est quand? C'est pas là où la personne s'éclate, c'est pas là où elle est douée, c'est pas là où elle apporte de la valeur. Pourquoi on l'empêche de continuer, en fait? Alors qu'il y a tellement de choses à faire dans la tech, t'as le mentoring, t'as prendre un peu de hauteur, faire de l'architecture, tu vas avoir amené des bonnes pratiques, du craft, du TDD, du solide, des patterns. Il y a tous ces sujets-là, en fait, c'est hyper vaste et je pense que t'as pas assez de 20, 30, 40 ans pour tout maîtriser. Et on a besoin. Et on a un marché aujourd'hui où ces profils-là sont hyper rares, sont pénuriques, parce que pendant des dizaines d'années dans les écoles et dans les entreprises, le message, c'était, tu veux grandir? Faut devenir chef de projet. Si au bout de 5 ans, t'es pas chef de projet, t'as raté ta
C'est que t'as
carrière.
raté ta vie de dev, ouais.
Exactement, exactement. On a eu les mêmes profs. Non, je rigole, hein, mes profs n'étaient pas spécialement comme ça. Mais même si tes profs te disent pas ça, et j'ai encore vu des étudiants il y a pas longtemps, j'ai été jury il y a quelques semaines, tous les étudiants, pour tous, c'était un petit peu le chemin par défaut, quoi. Alors que on en a eu deux, ils étaient en train de nous
Ouais, tout à fait.
montrer un amour de la tech. C'était impressionnant, franchement. Ils terminaient leurs études. J'avais envie de les recruter tout de suite, quoi. Ils étaient brillants, adorables, une capacité de vulgarisation impressionnante. Et ils t'expliquent qu'ils sont passionnés de tech. Et les mecs, après, ils te montrent leur plan de carrière parce qu'il y avait aussi un petit exercice de se projeter un peu dans leur carrière. Putain, tous les deux, ils nous montrent qu'ils veulent devenir chef d'équipe. T'as envie de dire, les gars, c'est pas la même chose. Pourquoi chef d'équipe? Jamais vous nous avez parlé d'une volonté d'encadrer des gens, spécialement orienté partage. Je sais pas, enfin, il n'y avait rien dans leur présentation qui laissait penser qu'ils voulaient faire ça. Et les mecs, ils te le mettent, et quand tu creuses un peu, ouais, mais c'est ça nous semble un peu le truc par défaut si on veut grandir. Mais non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est moins vrai. C'est moins vrai.
Écoute Olivier, c'était top. Merci pour cet échange. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on se quitte que tu as vraiment envie de partager avec les auditeurs?
Bah déjà, un grand, grand merci à toi de m'avoir laissé l'opportunité de m'exprimer un peu sur ton podcast, que j'apprécie beaucoup, que j'écoute très régulièrement. Je trouve que tu abordes des sujets
Merci à toi.
toujours, je t'en prie, toujours particulièrement intéressants. Et un mot de la fin, j'ai envie de dire, pour essayer de résumer un petit peu tout ça, soyez authentique, soyez empathique avec les autres. Et si vous aimez la tech, restez dans la tech. Et si vous ne savez pas trop où vous orienter, posez des questions, demandez aux gens autour de vous. Vous pouvez venir me voir sur LinkedIn, ajoutez-moi, discutons. Ce sera avec grand, grand plaisir. Éclatez-vous, quoi. C'est vraiment le mot. Il y a l'ambition, mais il y a aussi le fait qu'il faut que vous éclatez au quotidien, vous faire plaisir. Si vous ne vous faites pas plaisir, essayez de changer quelque chose, peut-être avec du coaching, peut-être avec une nouvelle boîte, un nouveau métier, je ne sais pas. Prenez du plaisir.
Merci Olivier pour tout ça. Si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent venir où? Sur ce que tu fais, sur Coachhub peut-être?
Ils me contactent sur LinkedIn, tout simplement. Ils peuvent aller voir le site de Coachhub, coachhub.com, si ça les intéresse de découvrir un petit peu l'entreprise et la plateforme. Et j'ai envie de dire, sinon, ton podcast, toujours une très très bonne source.
Ça marche. Merci Olivier.
Merci, Benoît.
Quant à toi, cher auditeur, bah écoute, j'espère que tu as aimé cet épisode. Je t'invite à venir sur le blog artisandéveloppeur.fr. J'essaye de publier maintenant, enfin c'est pas j'essaye, c'est je publie maintenant du contenu un peu plus de fond sur tout ce qui est craft. Tiens, la sécurité psychologique, c'est peut-être un sujet que j'aimerais bien aborder. Peut-être que voilà, ça sera l'objet d'un futur article. En tout cas, voilà, si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur Artisan Développeur et tout ce qu'on fait dans la communauté, je t'invite à venir sur artisandéveloppeur.fr. À bientôt!